Bonjour Didier Pilon, je suis heureux de vous retrouver dans les studios de Radio Fidélité en compagnie de Mathieu Ordonneau à la technique pour que nous passions ensemble une heure qui va être consacrée à un opéra peut-être moins célèbre que les autres, mais pourtant d'un fameux compositeur puisqu'il s'agit de Vincenzo Bellini. Et nous allons entendre les Capulet et les Montaigu, autrement dit l'histoire de Roméo et Juliette. Pourquoi je dis que cet ouvrage est moins célèbre peut-être que les Puritains ou que d'autres encore? Tout simplement parce que on a perdu l'habitude aujourd'hui d'avoir des opéras où le rôle du jeune homme est tenu par une femme. Au 19e, ça ne posait pas de problème. C'est ce qu'on appelait les rôles des travestis. Et donc, c'était pas gênant que Roméo soit interprété par une femme. Je dirais qu'aujourd'hui, sur des scènes, c'est un peu moins crédible. Auquel cas, d'ailleurs, le grand chef d'orchestre italien Riccardo Muti avait décidé, Claudio Abbado, pardon, avait décidé un jour, dans les années 1975, de confier le rôle, normalement, de la mezzo-soprano, autrement dit de Roméo, de le confier à un ténor. Et j'avoue que c'était peut-être un essai tout à fait intéressant, mais qui n'a pas eu de suite. Donc c'est, pour moi, c'est un opéra, évidemment, qui montre la maîtrise parfaite du bel canto de ce jeune compositeur, mais qui est encore une fois peut-être moins célèbre que la Somnambule ou que d'autres opéras. Quoi qu'il en soit, cette tragédie lyrique, comme son nom l'inspire, est tirée de différentes sources, notamment d'un Italien, Luigi Scaevola, qui serait un petit peu antérieur à Shakespeare. Parce qu'on va voir qu'il y a des grandes différences quand même dans l'histoire de ce Roméo et Juliette tel que l'a mis en livret le Felice Romani. Romani, c'est un grand librettiste qui a l'habitude de travailler avec les plus grands, avec Rossini, avec Donizetti et pourquoi pas avec Bellini. Et c'est ainsi qu'on va créer pour la première fois cet opéra le 11 mars 1830 à la Fenice de Venise. Autrement dit, notre compositeur Bellini, il n'a pas 30 ans, mais il est déjà devenu une des coqueluches finalement de l'Italie, le rival de Donizetti et le successeur, on va dire, de Rossini dans le cadre du bel canto. Alors l'action, eh bien évidemment, se déroule en Italie et on va avoir des personnages principaux, il y en a 5 essentiellement. Roméo, bien sûr, qui fait partie de la famille des Montaigu. Juliette, qui elle est l'amante de Roméo, mais dans la famille des Capulet, c'est la fille de Capello. D'ailleurs, Capello, c'est le chef de la famille, le père de Juliette, c'est lui qui va être à l'origine finalement de ce drame. Et puis il y a deux autres personnages importants, Tybalt, qui est partisan, lui, des Capulet, qui va être le fiancé malheureux, il faut bien le dire, de Giulietta, tandis que Lorenzo, ou le frère Laurent, est plutôt un médecin et non pas un moine, comme dans l'histoire de Shakespeare. Alors je vous propose de nous retrouver justement tout de suite dans cette très belle œuvre de Bellini en deux actes. Nous sommes au moment où justement Tybalt, lui, est très heureux parce que le père de Juliette lui a promis sa main. On essaye de rassembler les deux familles, des Capulet et des Montaigu, mais non, le fameux Capello Capulet, pour lui, il n'en est absolument pas question. Il refuse finalement la main tendue que lui adresse Roméo et il décide de dire que sa fille épousera Tybalt, le cousin. Et c'est donc justement cette partie-là de l'opéra que nous entendons au moment où il est tellement content, notre pauvre Tybalt, d'épouser celle qu'il adore.
Mille giorni di dolore, mille giorni. io sceglierai mille giorni di dolore, mille giorni, sì, di dolore, mille giorni, mille giorni di dolore.
Le premier air finalement de Thibault, le cousin de Juliette qui doit l'épouser, interprété ici par le grand ténor russe qui était Nikolaï Gueda. Alors, vous avez constaté que le découpage finalement des scènes n'est pas le même que le Roméo Juliette de Gounod, si vous l'avez bien en tête, et que là maintenant, il va y avoir Roméo qui va arriver comme ambassadeur. Personne ne sait bien sûr que c'est Roméo, et il vient encore pour plaider la cause finalement d'un rapprochement entre les Capulet et les Montaigu. Et il explique que ça serait bien qu'on ait un mariage entre les deux familles, parce qu'il aime déjà Juliette, il l'a déjà rencontrée, et il propose donc au père de faire en sorte qu'il y ait un mariage. Mais évidemment, Capello ne veut absolument pas en entendre parler, il a décidé que ça serait la guerre, c'est pour ça d'ailleurs que vous aviez ce côté un peu martial, déjà, entre les Capulet et les Montaigu, et qu'il refuse. Et pourtant, eh bien, Roméo va jouer en quelque sorte l'ambassadeur, il va dire, mais vous allez tuer des enfants, c'est vraiment dommage, permettez qu'il y ait ce rapprochement. Je vous l'ai dit, Capello refuse, et je vous propose d'écouter justement la très belle première intervention de Roméo qui vient voir Capello. Je vous rappelle, parce que ça peut vous perturber, que le rôle de Roméo est chanté par une femme, par Janet Baker en l'occurrence, qui est mezzo-soprano. Alors on découvre tout de suite le premier air de Roméo.
Oh!
Voilà donc la fin de la scène 1, de l'acte premier de ce Capulet Montaigu, je le rappelle, de Vincenzo Bellini, d'après bien sûr Shakespeare, mais remanié complètement par Felice Romani. Alors, on est donc justement maintenant au cœur du drame. Capello, le chef de guerre finalement, en gros, des Capulets, eh bien, a refusé l'offre que proposait le jeune Roméo, et c'est donc la guerre qui est déclarée, et Roméo retourne dans son camp pour préparer justement cette lutte inévitable entre les deux familles. Et nous nous retrouvons maintenant dans la scène numéro 2, toujours de l'acte 1, et là nous allons retrouver justement la belle et la jeune Juliette qui est désespérée, qui n'arrive pas finalement à se résoudre au mariage avec Tibaldo, mais il n'y a rien à faire et donc elle est déchirée véritablement, alors qu'elle aime elle aussi d'un amour passionné le beau Roméo et elle espère qu'elle pourra un jour peut-être le retrouver, mais pour l'instant cela semble assez compromis.
Thank you.
Le premier air de Juliette, interprété ici par la soprano américaine Beverly Seals. Si vous prenez cette émission en cours dans les studios, nous sommes avec Mathieu pour vous parler donc de ces Capulet et de ces Montaigu, d'après bien sûr Shakespeare, mais l'opéra de Bellini, un très bel opéra, vous le constatez, où on a encore comme ça des grandes cantilènes. On voit ce que c'est que le bel canto, hein, où vraiment la mélodie est absolument sublime, d'une grande simplicité, et l'orchestre finalement qui accompagne, qui porte en quelque sorte les voix, et c'est ce qui fait évidemment tout le charme et tout le succès, il faut bien le dire aussi, des opéras de Bellini. Alors, une fois que Juliette est bien à pleurer sur le fait qu'elle ne ne peut pas épouser son bel amant Roméo. Celui-ci surgit de manière impromptue dans la chambre de la jeune fille et veut la convaincre absolument de partir avec lui. Mais ce que la jeune fille ne peut pas, elle est prise entre le respect du père, des traditions familiales et l'amour de Roméo. Et donc, elle ne va pas accepter finalement de partir avec Roméo, ce qui est dramatique, alors que lui, le jeune homme, il était plein d'amour et de passion et il devait s'enfuir, ce qui n'arrivera pas à la fin de cette deuxième scène. La fin de la scène 2 de l'acte 1 de C'est Capulet Montaigu de Bellini. Je rappelle la distribution. Janet Baker, mezzo-soprano Roméo, Beverly Seals, soprano Giulietta. On va retrouver dans quelques instants Robert Lyord, le papa Capelio, c'est une basse. Et on retrouvera également Nicolas Higueda, Tibalt, qui lui est un ténor. Je rappelle que l'orchestre philharmonique de la New Philharmonia, pardon, est placé sous la direction de Giuseppe Pattané. Alors on est justement maintenant dans la troisième et dernière scène de l'acte 1. Roméo est revenu, décidément, décidément, il rentre tout le temps dans cette maison, mais enfin quand même. Donc Roméo retourne dans la maison des Capulet, il est déguisé en Capulet, il veut absolument interrompre le mariage entre Juliette et Tybalt. Il va essayer de convaincre la jeune fille de partir quand ils vont être surpris justement par Tybalt. Et donc, il va y avoir une fameuse bagarre, une lutte qui va éclater entre les Capulet et les Montaigu. Vous allez voir, c'est assez agité et c'est justement la fin de l'acte 1.
Thank you.
fin de l'acte 1 de ces fameux Capulet Montaigu de Bellini. Je rappelle que l'œuvre a été créée à la Scala de Milan en 1830, alors que Bellini n'avait pas encore 30 ans, et que c'était finalement un moyen pour lui de se racheter. Il avait eu un triomphe avec un opéra en 1827 qui s'appelait Le Pirate, et là, tout le monde avait adoré. Et puis, il avait écrit un autre opéra, Zahir, qui malheureusement avait été un échec complet, ce qui était rare pour Bellini, et donc il fallait absolument retrouver en quelque sorte la gloire. Et c'est comme ça que, en l'espace de quelques semaines seulement, avec Romani, ils se sont attaqués à un nouvel opéra qui est ce fameux Roméo Juliette. Et je dis bien, non pas du tout d'après Shakespeare. J'ai appris justement en préparant cette émission que Shakespeare lui-même s'était inspiré d'une histoire italienne. Et donc, les librettistes et Bellini sont repartis aux sources italiennes, finalement, de cet opéra et de cette histoire, ce qui explique qu'il y ait quelques modifications par rapport au découpage chez Shakespeare. Quoi qu'il en soit, on va se retrouver, nous, donc, au deuxième acte. On est dans la demeure des Capulet. Juliette est rassurée par le fameux Lorenzo, qui n'est pas du tout un moine, comme dans la pièce de Shakespeare, mais plutôt le conseiller, finalement, du papa, mais qui aime bien les deux amants et qui veut les aider. Et donc, il lui dit, ne t'inquiète pas, Juliette, ton Roméo n'est pas mort, mais il faut maintenant qu'on trouve un moyen de vous mettre ensemble. Et c'est là qu'il propose l'histoire du fameux philtre, hein, qui donnera l'apparence d'une morte. Juliette a un peu peur, évidemment, mais elle n'a pas le choix. Et puis, ben, quand le père arrive pour dire qu'est-ce que c'est que cette panique, etc., bien, elle absorbe vite, trop vite peut-être, le philtre. Et elle demande pardon à son père qui refuse en disant qu'est-ce que tu fais, tu m'as trahi, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et donc, le papa Capello va se retirer, mais va demander évidemment qu'on surveille attentivement Lorenzo, car il n'a plus confiance dans son conseiller. Il trouve justement qu'il a une mauvaise influence sur Juliette. Et évidemment, elle a bien, personne ne sait encore qu'elle avalait le philtre. Donc tout de suite, le final de la scène 1 de l'acte 2, au moment où Juliette demande pardon à son père, où elle va, de peur finalement, absorber le philtre. Thank you. Voilà le grand air donc de Juliette au moment où elle avale le filtre qui doit normalement lui donner l'apparence de la mort et elle va en quelque sorte s'évanouir, mais pour l'instant on ne le sait pas encore, on va le découvrir dans la scène suivante qui est la deuxième scène de l'acte 2 où justement Roméo n'a aucune nouvelle de sa Juliette, il est devant la maison des Capulet, il ne sait pas quoi faire, il demande finalement à Lorenzo de lui donner des explications mais Lorenzo n'en a pas puisque je vous l'ai dit, Capello, le père de Juliette, veut l'écarter, il n'a plus confiance en lui. Et donc, c'est plus fort que lui. Roméo va rentrer dans la maison. Il va tomber sur Tybalt. Les deux hommes vont commencer à se battre au moment où on va entendre un chœur funèbre qui annonce finalement la mort de Juliette. Et donc, les deux hommes vont arrêter de se battre. Ils vont tous les deux pleurer parce qu'ils croient évidemment que Juliette est morte. La fin donc de la scène 2 au moment où, eh bien, croyant que Juliette est morte, aussi bien Tybalt que Roméo cessent de se battre, ce qui est une différence là encore avec, je rappelle, le drame de Shakespeare, puisque dans le drame de Shakespeare, Roméo tue Tybalt. Mais là, ça n'est pas le cas, ils vont se séparer et on arrive à la troisième scène où on est bien sûr dans le caveau des Capulet. Roméo réussit à pénétrer dans la tombe et voyant Juliette allongée, bah, il croit qu'elle est morte. Mais je vous l'ai dit, elle n'est pas morte. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va prendre du poison. Dans Shakespeare, il se poignarde. Mais peu importe, là, il prend du poison. Et au moment donc où il absorbe le poison, voilà que Juliette se réveille, puisque je vous rappelle, ça n'était qu'un filtre qui donnait l'apparence de la mort. Et quand elle voit que son mari, enfin son amant plutôt, est en train de mourir, eh bien, elle va elle aussi absorber le poison et elle va mourir dans les bras de celui qu'elle aimait au moment où rentrent les Capulet et les Montaigu. Et c'est la fin de ce drame. Donc tout de suite, nous sommes au moment où bien Romo est en train d'agoniser, Juliette se réveille et va prendre le poison et ils vont mourir tous les deux en disant « Mais cruel, pourquoi devons-nous nous séparer ?»
Thank you.
La scène 3 de l'acte 2 de ces Capulet et Montaigu, opéra, je vous le rappelle, de Vincenzo Bellini, avec dans la distribution Janet Baker, mezzo-soprano Roméo, Beverly Sills, soprano Juliette, Robert Lyod, basse, Capello, le papa, Nicolai Gueda, ténor, Tybalt, et les chœurs de John Edlis et le New Philharmonia Orchestra étaient placés sous la direction de Giuseppe Patané. J'espère que vous avez été heureux de découvrir cette version assez peu connue de Roméo et Juliette vue par Bellini.